Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc pour Lectures en liberté et la suite et la fin de la nouvelle de James Joyce, Les Morts. Elle se détourna avec lenteur de son miroir et marcha vers lui dans le ray de lumière. Son visage paraissait si sérieux et si las que Gabriel ne put prononcer une seule parole. Non, ce n'était pas encore le moment. « Vous paraissez fatigué, » dit-il. « Je suis un peu, » répondit-elle. « Vous ne vous sentez pas souffrante, ni faible. Non, fatiguée, c'est tout. » Elle se dirigea vers la fenêtre et y demeura, regardant au dehors. Gabriel attendit encore, puis, redoutant de se trouver à la merci de sa timidité, il dit brusquement « À propos, Greta, qu'y a-t-il ? Vous savez, ce pauvre garçon, Malins. » « Oui, eh bien. Eh ben, c'est un bon diable, après tout, » continua Gabriel, sur un ton qui sonnait faux. « Et il m'a rendu le louis que je lui avais prêté, et vraiment je ne m'y attendais pas. C'est dommage qu'il ne puisse pas éviter M. Brown, parce qu'au fond, ce n'est pas un si mauvais garçon. » Il tremblait à présent d'énervement. Pourquoi avait-elle l'air si absent ? Il ne savait pas comment il pourrait commencer. Serait-elle ennuyée de quelque chose ? Si seulement elle pouvait se retourner ou aller à lui de son propre mouvement, la prendre ainsi serait brutal. Non. Il fallait tout d'abord apercevoir quelque ardeur dans ses yeux. Il brûlait de gouverner l'étrange état d'esprit où elle se trouvait. « Quand lui avez-vous prêté cet argent ? » demanda-t-elle, après un temps. Gabriel dut se maîtriser pour ne pas se répandre en injures sur le compte de ce sot de Malins et de son Louis. Il brûlait d'adresser à Greta un appel du fond de son être, de broyer son corps contre le sien, de la dominer, mais il dit « Oh ! À la Noël, quand il a ouvert cette boutique de cartes postales dans Henry Street. » Il était pris d'une telle fièvre de rage et de désir qu'il ne l'entendit pas venir de la fenêtre. Elle s'arrêta devant lui un instant, le regardant avec des yeux étranges. Puis tout à coup, se dressant sur la pointe des pieds et lui posant légèrement les mains sur les épaules, elle l'embrassa. « Vous êtes très généreux, Gabriel. » Gabriel, tremblant, saisi de ravissement par ce baiser brusque et par l'inattendu de sa phrase, lui posa les mains sur la tête et se mit à lui caresser les cheveux, ses doigts l'effleurant à peine. Le lavage les avait rendus souples et brillants. Son cœur débordait de joie. Juste au moment où il l'avait souhaité, elle-même était venue à lui. Peut-être que ses pensées à elle avaient suivi le même cours que les siennes. Peut-être comprenait-elle le désir impétueux qui le possédait, et c'était cela qui le disposait à l'abandon. À présent, qu'elle se rendait aussi facilement, il se demandait pourquoi il avait ressenti autant d'hésitation. Il demeurait debout, lui tenant la tête entre les mains. Puis, glissant vivement un bras autour de son corps et l'attirant à lui, il dit avec douceur « Greta, chérie, À quoi pensez-vous ? Elle ne répondit pas, ne céda pas non plus complètement à la pression de son bras. Il répéta avec douceur. « Dites-moi ce dont il s'agit, Greta. »« Je crois savoir ce qu'il y a. Est-ce que je sais ?» Elle ne répondit pas aussitôt. Puis elle dit dans un flot de larmes, « Oh, je pense à cette chanson, The Lace of Hanjim. » Elle se dégagea et courut vers le lit, puis, jetant ses bras sur les barreaux, y cacha son visage. Gabriel demeura un instant pétrifié d'étonnement, puis il la suivit. Comme il passait devant le miroir, il se vit en pied. Le large plastron bombé de sa chemise, le visage, dont l'expression l'intriguait toujours lorsqu'il l'apercevait dans la glace, les lorgnons scintillants à monture dorée. À quelques pas, il s'arrêta et dit « Eh bien quoi, cette chanson? Pourquoi vous fait-elle pleurer ?» Elle leva la tête et s'essuya les yeux avec le dos de la main comme une enfant. Une inflexion plus douce qu'il n'aurait voulu y mettre passa dans sa voix. « Pourquoi, Greta ?» demanda-t-il. « Je pense à quelqu'un qui avait coutume de chanter cette chanson il y a bien longtemps de cela. »« Qui était-ce ? » demanda Gabriel en souriant. Quelqu'un que j'avais connu à Galway lorsque j'y vivais avec ma grand-mère, dit-elle. Le sourire disparut sur la figure de Gabriel. Une sourde colère l'envahit de nouveau, et le morne afflux de son désir se fit plus menaçant dans ses veines. Quelqu'un de qui vous étiez éprise ? S'enquit-il avec ironie. C'était un jeune homme que je connaissais, répondit-elle, appelé Michel Furey. Il chantait cette chanson. Il avait une santé très délicate. Gabriel demeurait silencieux. Il ne voulait pas qu'elle pût supposer qu'il portât un intérêt quelconque à ce garçon de santé délicate. Je le vois si bien, dit-elle, un moment plus tard. Les yeux qu'il avait, de grands yeux sombres, et quelle expression, une expression! « Oh, alors vous êtes amoureuse de lui, » dit Gabriel. « J'allais me promener avec lui, » dit-elle, « lorsque j'étais à Galway. » Une pensée lui traversa l'esprit. « Alors c'est peut-être pourquoi vous vouliez aller à Galway avec la fille Havers, » dit-il froidement. Elle le regarda surprise. « Pourquoi faire ? » demanda-t-elle. Sous son regard, Gabriel se sentit gêné. Il haussa les épaules et il dit « Mais que sais-je ? Pour le voir, peut-être. » Elle détourna la tête et considéra en silence la bande de lumière qui allait jusqu'à la fenêtre. « Il est mort, » dit-elle enfin. « Il est mort à 17 ans. N'est-ce pas affreux de mourir aussi jeune ? » « Qu'est-ce qu'il faisait ? » dit Gabriel, toujours ironique. « Il était dans une usine à gaz, » dit-elle. Gabriel s'est senti mortifié par l'inefficacité de son ironie et par l'évocation de cette figure d'entre les morts. Un garçon dans l'usine à gaz. Cependant que Gabriel s'était nourri des souvenirs de leur vie intime à deux, souvenirs pleins de tendresse, de joie, de désir, elle le comparait à un autre. Il fut envahi par une conscience de lui-même qui s'accompagnait de honte. Il se vit un personnage ridicule, agissant comme un galopin pour ses tantes, un sentimental nerveux, bien intentionné, tenant des discours à des gens vulgaires et idéalisant ses appétits de piété. Pauvre être pitoyable et bête qu'il avait entrevu en passant devant la glace, instinctivement il tourna encore plus le dos à la lumière, de peur qu'elle ne vît la rougeur de honte qui lui brûlait le front. Il s'efforça de conserver ce ton de froide interrogation, mais sa voix, lorsqu'il parla, se fit humble et indifférente. « Je suppose que vous étiez amoureuse de ce Michel Furey, Greta, » dit-il. « J'étais au mieux avec lui dans ce temps-là. » Sa voix se faisait voilée et triste. Gabriel, comprenant maintenant combien il était vain de la mener au but qu'il s'était proposé, lui caressa la main et dit tristement lui aussi « Et de quoi est-il mort si jeune, Greta ? Était-ce de phtisie ?»« Je crois qu'il est mort pour moi, » répondit-elle.
« Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. » Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Impassible ma neige, mais tombe la neige, impassible ma neige.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous revenons donc à la fin de la nouvelle de James Joyce, Les Morts, après ce petit intermède musical. Une terreur vague s'empara de Gabriel à cette réponse, comme si à l'heure même où il avait espéré triompher, quelque être invisible et vindicatif se levait, rassemblant dans son monde non moins vague des forces contre lui. Mais avec un effort de la raison, il se défit de cette idée et continua de lui caresser la main. Il cessa de l'interroger car il sentit que d'elle-même elle allait parler. La main de Greta, tiède et moite, ne répondait pas à sa pression, mais il continua néanmoins à la caresser, tout ainsi qu'il avait caressé sa première lettre en ce matin de printemps. C'était en hiver, dit-elle, à peu près au début de l'hiver, où je devais quitter grand-mère pour rentrer ici, au couvent. Il était souffrant alors dans une chambre meublée à Galway. On ne lui avait pas permis de sortir, et sa famille en fut avisée. Il déclinait, disait-on, ou quelque chose d'approchant, je n'ai jamais su au juste. Elle s'arrêta un instant et soupira. Pauvre garçon, dit-elle, il m'aimait beaucoup, et c'était un garçon si doux. Nous sortions nous promener ensemble, vous savez bien, Gabriel, comme cela se fait à la campagne. Il comptait étudier le chant si sa santé le lui avait permis. Il avait une très belle voix. Pauvre Michel Ferret. « Eh bien, et alors ? » demanda Gabriel. Et alors, lorsqu'arriva le moment où je devais quitter Galway et venir au couvent, il était bien plus mal. Et on ne me laissait pas le voir, alors je lui ai écrit en lui disant que j'allais à Dublin et comptais revenir l'été suivant et que j'espérais le trouver mieux. » Elle se tut un moment pour raffermir sa voix, puis poursuivit. Alors, dans la nuit qui précéda mon départ, j'étais dans la maison de ma grand-mère dans l'île des Nonnes, en train de faire mes paquets. Et j'entendis le bruit du gravier jeté contre les vitres. La croisée ruisselait à tel point que je ne pouvais rien voir. Alors, je descendis l'escalier en courant, tel que j'étais, et me faufilai par la porte de la maison dans le jardin. Et là, au fond du jardin, se tenait le pauvre garçon qui grelottait. « Et vous ne lui avez pas dit de retourner chez lui ?» Je l'ai supplié de rentrer sur le champ, qu'il prendrait la mort sous la pluie. Mais il disait qu'il ne voulait pas vivre. Je vois ses yeux si bien, si bien. Il se tenait à l'extrémité du mur où il y avait un arbre. « Et il est retourné chez lui ?» demanda Gabriel. « Oui, il est retourné chez lui. » Et pas plus d'une semaine après que j'étais au couvent, il mourut et fut enterré, là où vivait sa famille. Oh, le jour où j'ai appris qu'il était mort !» Elle s'arrêta, étouffant sous les pleurs, et vaincue par l'émotion, elle se jeta sur son lit en sanglotant, le visage enfoui dans la courtine. Gabriel lui tint la main un moment encore, indécis, puis, n'osant empiéter sur son chagrin, la laissa retomber doucement et se dirigea sans bruit vers la fenêtre. Elle s'était profondément endormie. Gabriel, appuyé sur son coude, regarda un moment sans rancune ses cheveux emmêlés, sa bouche entrouverte, écoutant sa respiration profonde. Ainsi, elle avait eu ce roman dans sa vie. Un homme était mort à cause d'elle. C'est à peine s'il souffrait à la pensée du maigre rôle qu'il avait joué, lui, son mari, dans sa vie à elle. Il la considérait, tandis qu'elle dormait, comme s'ils n'avaient jamais vécu ensemble en époux. Ses yeux s'attachèrent longtemps et avec curiosité à sa figure, à ses cheveux. Et en pensant à ce qu'elle avait dû être alors au temps de sa beauté de jeune fille, une étrange comparaison, tout amicale, envahit son âme. Il n'aimait pas avouer même à lui-même que son visage ne retenait plus de beauté, mais il savait bien que ce n'était plus là le visage pour lequel Michel Ferret avait bravé la mort. Peut-être ne lui avait-elle pas tout raconté. Ses yeux errèrent vers la chaise sur laquelle elle avait jeté quelques-uns de ses vêtements. Le cordon d'un jupon pendait à terre. Une des bottines se tenait droite, le haut souple relié. L'autre était retombée sur le côté. Il fut surpris du tumulte de ses émotions d'une heure auparavant. Qu'est-ce qui les avait engendrées ? Le souper de ses tantes, son discours ridicule, le vin, la danse, la réunion burlesque au moment de se souhaiter une bonne nuit dans le hall, le plaisir d'une promenade le long de la rivière dans la neige. Pauvre tante Julia. Elle aussi ne serait bientôt plus qu'une ombre auprès de l'ombre de Patrick Morcan et de son cheval. Il avait surpris cette même expression hagarde sur son visage un instant, tandis qu'elle chantait « Parée pour les noces ». Bientôt peut-être il serait assis dans ce même salon, vêtu de noir, son chapeau haut de forme sur les genoux. Les stores seraient baissés, et tante Kate serait assise près de lui, qui pleurerait et se moucherait, racontant comment Julia était morte. Il fouillerait dans son esprit pour trouver quelques paroles consolatrices, et il n'en trouverait que des fortuites ou d'inutiles. Oui, oui, cela ne manquerait pas d'arriver sous peu. L'atmosphère de la chambre lui glaçait les épaules. Il s'allongea avec précaution sous les draps et s'étendit à côté de sa femme. Un à un, tous, ils devenaient des ombres. Mieux vaut passer hardiment dans l'autre monde à l'apogée de quelques passions que de s'effacer et flétrir tristement avec l'âge. Il pensa comment celle qui reposait à ses côtés avait scellé dans son cœur depuis tant d'années l'image des yeux de son ami, alors qu'il lui avait dit qu'il ne voulait plus vivre. Des larmes de générosité lui montèrent aux yeux. Il n'avait jamais rien senti d'analogue à l'égard d'aucune femme, mais il savait qu'un sentiment pareil ne pouvait être autre chose que de l'amour. Des larmes coulèrent de ses yeux, et dans la pénombre, il crut voir la forme d'un jeune homme debout sous un arbre lourd de pluie. D'autres formes l'environnaient. L'âme de Gabriel était proche des régions où séjourne l'immense multitude des morts. Il avait conscience, sans arriver à les comprendre, de leur existence falote, tremblotante. Sa propre identité allait s'effaçant en un monde gris, impalpable. Le monde solide que ces morts eux-mêmes avaient jadis érigé, où ils avaient vécu, se dissolvait, se réduisait à néant. Quelques légers coups frappés contre la vitre le firent se tourner vers la fenêtre. Il s'était mis à neiger. Il regarda dans un demi-sommeil les flocons argentés ou sombres tombés obliquement contre les réverbères. L'heure était venue de se mettre en voyage pour l'Occident. Oui, les journaux avaient raison. La neige était générale en toute l'Irlande. Elle tombait sur la plaine centrale et sombre, sur les collines sans arbres, tombait mollement sur la tourbière, et plus loin, à l'Occident, mollement tombait sur les vagues rebelles et sombres du Shannon. Elle tombait aussi dans tous les coins du cimetière isolé, sur la colline où Michel Ferret gisait enseveli. Elle s'était amassée sur les croix tordues et les pierres tombales, sur les fers de lance de la petite grille, sur les broussailles dépouillées. Son âme s'évanouissait peu à peu, comme il entendait la neige s'épandre faiblement sur tout l'univers. Comme à la venue de la dernière heure, sur tous les vivants et les morts. Et voilà, nous avons terminé la lecture de cette nouvelle de James Joyce, Les Morts. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour d'autres lectures. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.